Riz, boulgour, amaïs, amarante, petite épeautre, orge perlée, voilà quelques-unes des céréales qu'on trouve dans nos commerces. Et pourtant, eh ben nous avons toujours l'impression de tourner en rond en cuisine. Je vous pose la question, tiens les amis, avant d'accueillir notre invité Manon Fleury, Olivier Pouls et Philippe Toinard, pour quelles graines vous en croquez ?
Je dois d'abord vous confesser que je ne mange pas énormément de céréales.
C'est marrant, vous l'ami de la crème et du beurre.
Vous étonnez,
ça m'étonne.
Je n'en mange pas énormément. J'ai une petite faiblesse toutefois pour le petit épeautre qui cuisinait à la façon d'un risotto.
Ah, avec beaucoup de beurre.
Bon, on pourrait en mettre éventuellement un petit peu dedans, ça ne gâche rien.
J'adore le goût rustique du petit épeautre. Et vous, Philippe Toinard ?
Moi, c'est plus basique, c'est le riz. Après, il y a d'autres céréales qui sont dans mes plats, sauf que c'est en produits transformés. Donc, j'ai travaillé un peu la semoule, ce que j'aime beaucoup, mais ça vient du blé. Et le sarrasin, parce que je mange beaucoup de galettes, parce que je suis breton.
Et ben voilà, fidèle à vos origines. Et voilà. On accueille la chef Manon Fleury, une amoureuse des céréales. Elle régale en ce moment les Parisiens au fourneau du perchoir Doménil. C'est au chalet des Îles, dans le bois de Vincennes. C'est l'ancienne chef du Mermoz, une adresse mythique du bas des Champs-Élysées qui existe toujours aujourd'hui et qui est toujours très très fréquentable. Elle est avec nous. Bonjour Manon Fleury.
Bonjour Laurent.
Merci d'être là.
Et merci à vous.
Et bravo pour ce beau livre, Céréales, comme son nom l'indique, les recettes d'une chef engagée. C'est paru chez Flammarion. Alors, c'est plus qu'un livre de recettes. Il y a beaucoup de recettes, bien entendu, mais il y a de beaux portraits de producteurs engagés, comme vous, pour nous faire manger de bonnes céréales et une belle biodiversité. Et puis, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a des fiches comme ça sur ces produits, sur ces céréales qu'on ne connaît pas bien et que vous nous proposez d'apprivoiser. Qu'est-ce qui vous plaît, tiens, dans les céréales, Manon Fleury ?
Ben d'abord, je pense que c'était un aliment, un ingrédient que moi j'avais, qui était toujours présent dans mon alimentation au quotidien, parce que ma mère était déjà pro bio et alimentation, vraiment très diversifiée quand j'étais enfant. Typiquement le sarrasin, le quinoa, des choses comme ça, quand j'avais déjà une dizaine
d'années. Alors sarrasin, quinoa, qui ne sont pas des céréales,
qui
étonnamment.
Qui ne sont pas des céréales, mais qui sont des pseudo-céréales, plutôt des plantes, mais qui sont qu'on intègre dans la famille des céréales. Et ensuite, en fait, dans mon parcours de cuisinière classique, j'ai pas retrouvé ces céréales. En fait, j'ai pas eu beaucoup de techniques, etc., qui m'ont été communiquées sur ces céréales. Donc, je pense que je les ai toujours un peu laissées dans le domaine de la cuisine du quotidien. Et ensuite, c'est plutôt quand je suis allée cuisiner aux États-Unis que j'ai découvert plein de variétés de céréales.
Lesquelles alors ?
Bah, c'était des noms très anglais, etc. Donc, il y avait de l'épeautre.
On est bilingue, vous pouvez y aller. On va être.
Il y avait le spète, le triticalé qu'on ne trouve pas trop en France, qui est plutôt destiné à l'alimentation des animaux.
Ouais.
Voilà, plein de variétés comme ça qui, moi, me paraissaient. Je ne les ai jamais vues dans des cuisines, dans des assiettes gastronomiques.
Alors, vous avez travaillé auprès de grands chefs, Pascal Barbeau, Alexandre Couillon, qui vient d'avoir 3 étoiles du côté de Noirmoutier. Et c'est vrai que c'était un petit peu le parent pauvre de la gastronomie française, hein, céréale, jusqu'à aujourd'hui, avec des chefs comme vous qui ouvrent la voie.
Mais probablement parce que dans l'histoire de la gastronomie française, les céréales, c'était des plats pauvres. On mangeait ça dans les fermes, dans les familles, quand il n'y avait pas mieux à manger. On mangeait des céréales et les chefs, quand ils ont commencé à ouvrir le restaurant et à faire une cuisine bourgeoise, la céréale n'était pas bienvenue à table. On préférait mettre de la viande, des légumes plus prestigieux. On parlait de la crème, le beurre, etc. Et la céréale, ça restait un plat pauvre.
Chou farci à l'avoine et au lard, bouillon et couscous d'or, poisson pané aux flocons d'avoine, soupe de maïs et épinards, ce sont des recettes de votre livre. C'est un beau terrain de jeu, la céréale.
Oui, c'est une incroyable diversité. Et c'était aussi, l'enjeu, c'était de montrer que c'était à la fois pas du tout ennuyeux, gourmand, et d'apporter des clés pour une cuisine du quotidien des céréales. Donc à la fois des techniques de trempage, de cuisson, de les manières de les agrémenter aussi, parce que bien souvent on n'a pas trop les clés, on trouve que c'est un peu sec, que c'est un peu collant, que c'est un peu roboratif. L'idée c'était de rendre quelque chose, les rendre attrayantes.
Non, il faut les rendre sexy, parce que honnêtement, la céréale en tant que telle, c'est quand même un peu,
exactement,
un peu
ennuyeux. Ça a failli être un nom de livre, mais j'ai pas poussé jusque-là.
La céréale sexy. Mais ce qui est étonnant, Olivier, aussi, c'est que quand on fait le compte des AOC ou des AOP, des appellations d'origine protégée,
des IGP aussi.
Et des IGP, il y a très peu de céréales, il n'y a pas de céréales en AOC.
Non, il y a le riz de Camargue, le petit épeautre de Haute-Provence, et la farine de blé noir breton, et c'est tout.
Et on pourrait imaginer dans un futur proche que nos amis de quinoa d'Anjou, qui ont une production assez importante, hein, parce qu'ils produisent un tiers du quinoa qui est consommé en France, eux, ce serait logique que, je ne sais pas ce qui c'est dans, leur, dans les tuyaux, mais qu'ils déposent un dossier pour obtenir soit une IGP, soit même une AOP, parce que c'est devenu une production française.
Mais c'est vrai que ça vaut le coup. Le riz rouge de Camargue, j'en suis dingue. Je ne sais pas ce que vous en pensez,
ouais,
Manon Fleury.
On oublie souvent qu'il y a du riz en France. Et je pense que c'est intéressant d'aller voir des recettes qui viennent d'ailleurs, notamment je sais pas, des riz qui pourraient être des sortes de riz, des paellas espagnoles, de les prendre et de se les approprier et de les faire avec des riz de France. Et
oui,
des riz français.
Mais vous nous ferez une recette tout à l'heure autour du riz. Vous nous donnerez quelques trucs et astuces pour bien cuisiner le riz. Mais avant, je voudrais qu'on parle de l'amarante, qui est très présente dans votre livre Céréales, qui est une plante, une céréale. Ça ressemble à quoi déjà pour les auditeurs d'Europe 1 qui ne connaîtraient pas l'amarante?
Alors, c'est une grande plante qui est très résistante. Donc on aperçoit qu'en fait elle rentre aussi très bien dans l'écosystème maraîcher. Moi j'ai pas mal de mes maraîchers qui en font pousser à côté des légumes, qui a des très grandes feuilles aussi, enfin des petites ou grandes feuilles.
C'est une belle plante.
C'est une très belle plante. Ça peut être rouge, très avec un rouge pourpre très intense, ou vert. Avec des tiges, et au bout on a ces petites graines qu'on fait sécher en général et qu'on récupère, et c'est un travail très laborieux de les récupérer et de les faire sécher.
Alors justement, c'est ce que vous avez fait. Vous avez fait de beaux crackers d'amarante, ça qu'on a.
Crackers d'amarante et de graines de lin, on vous entend croquer, c'est rigolo. Et l'amarante a un goût très, je trouve, popcorn, je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a un goût très toasté qu'on retrouve justement en le faisant. On l'a fait d'abord cuire comme une sorte de bouillie, et ensuite on l'a étalé, on l'a fait sécher au four à environ 150 degrés pendant 15 minutes, et ça nous donne ce côté croquant et presque un peu torréfié.
Et je trouve qu'il y a une finale qui est presque un peu marine, presque un peu
iodée.
Avec ce côté
Ça, c'est les huîtres que vous avez mangées avant l'émission.
C'est un côté un peu iodé en finale.
Et dites-moi, Manon Fleury, ça se trouve facilement, l'amarante?
Ça se trouve, aujourd'hui, on en trouve pratiquement dans tous les magasins bio. De manière aussi, de plus en plus de manière locale, comme disait Philippe, on peut le trouver. Moi, j'ai un producteur d'amarante qui est dans le Berry, que j'ai rencontré lors d'une dédicace du livre à Bourges, dans une librairie, la Plume de Sartat. Et on avait organisé une discussion avec eux. Donc on peut trouver aujourd'hui de l'amarante française localement. Donc renseignez-vous sur les producteurs qui sont à côté de chez
c'est
vous.
C'est souvent vendu en vrac
en
d'ailleurs. Dans les...
En
ça,
vrac,
c'est bien aussi.
Ouais, exactement. Mais le problème, c'est qu'en général, on ne sait pas trop quoi faire avec.
Eh bien, restez avec nous, nous sommes ensemble jusqu'à midi et demi. Vous allez nous faire un dessert qui était un chef-d'œuvre de la pâtisserie tout à l'heure. On le dit ou on ne le dit pas? Allez, on le dit.
Oui.
Un beau gâteau de crêpes Suzette à la façon de Manon Fleury pour régaler les auditeurs de
Repas.
Et Jacques Weber qui sera notre invité. Pour l'instant, c'est l'heure d'écouter notre bruit de cuisine. Nous sommes très joueurs. Vous pouvez gagner un cook expert de Magimix, le fameux robot cuiseur multifonction. Écoutez ce bruit de cuisine. Ça ressemble aux crackers. On réécoute parce que c'est dur, là. Ah oui, c'est du végétal. Je l'ai dit la semaine dernière, alors je le redis, mais c'est tout, j'en dirai pas plus. Jouez 39,21, 50 centimes la minute, ou alors vous laissez vos coordonnées sur europe1.fr.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Ah, nous revoilà à table avec la chef engagée Manon Fleury, qui est venue nous voir avec un très beau livre. Il s'appelle Céréales, aux éditions Flammarion. Quelques petits intitulés, comme on dit. Merlan confit à l'huile d'olive, millet et cerise. Potimarron farci au millet et abricot sec. Il y en a pas mal du millet, justement, qui est une graine, une céréale qu'on trouve beaucoup en Afrique aussi,
oui.
Manon Fleury.
Ouais, c'est une céréale que je trouve très intéressante aussi parce qu'elle contient peu de gluten. Je trouve qu'il y a ce côté un peu gluant, un peu qui s'agglomère et un côté aussi très léger qui peut être intéressant, comme elle alternative notamment au riz.
Alors c'est vrai que les céréales peuvent intimider parfois parce qu'il y a le trempage déjà qui peut rebuter certains cuisiniers amateurs ou pas.
Qui sont pas très, qui arrivent pas trop à anticiper leurs recettes. Oui.
C'est ça.
C'est une question d'organisation en fait. C'est de savoir.
Exactement.
Et après c'est aussi se dire que on peut aussi réduire le trempage. Moi je dis toujours dans le livre, j'explique que c'est idéalement c'est 12 heures, mais ça peut être aussi 2 heures.
Mais en 2 heures, voilà, c'est ce que vous dites souvent.
Voilà.
Alors ce que j'aime aussi beaucoup dans votre livre, c'est que vous le dites en préambule, les céréales sont au cœur de notre tradition agricole, mais aussi de notre transition énergétique, et c'est un bon substitut à la viande parce que les céréales, même certaines comme ça, ou quand on les combine avec des légumineuses, sont un bel apport de protéines végétales.
Oui, tout à fait. L'idée, c'est de revoir les quantités de protéines animales qu'on va mettre dans l'assiette et d'essayer d'inverser ces proportions. Et je pense que les céréales sont un bon apport en protéines végétales pour changer la diversité et le contenu de notre assiette du futur.
C'est nourrissant.
Et d'aujourd'hui.
Et c'est nourrissant et rassasiant. Et lesquels vous diriez qu'il faut avoir dans son placard alors ?
Bah, toutes. Moi, je pense que je prône vraiment la diversité. Et je pense que quand on fait toujours la même chose, c'est là où on s'ennuie, en fait. Et je pense qu'il faut avoir une ressource, il faut avoir du petit épaule, il faut avoir du quinoa, et c'est aussi intéressant de les associer entre elles, de les mélanger et de trouver un truc et des recettes qui changent souvent. C'est pour ça qu'on a fait, j'ai fait autant de recettes qui montrent qu'on ne s'ennuie pas.
Qu'est-ce qu'on peut faire comme mélange, par exemple?
Bah, par exemple, moi, je mélange souvent le quinoa et le boulgour, le quinoa et le sarrasin. Voilà, il y a plein de mélanges. Le petit épeautre et le riz, justement, qui font des magnifiques salades du quotidien.
Alors, parlez-nous du riz, tiens, Philippe Tonnard, parce que ça reste la céréale la plus consommée par les Français. Et on cultive et on produit du riz en France, on l'a dit, du côté de la Camargue, bien sûr.
Mais c'est une très ancienne céréale. Elle aurait été importée en France autour du 12e siècle. Alors, implantée tardivement, parce qu'il a fallu des conditions particulières pour faire pousser le riz. Donc, comme vous l'avez dit, c'est en Camargue, majoritairement. On en cultivait alors deux fois plus dans les années 60 par rapport à aujourd'hui. Et ça, c'est de notre faute, en fait. Parce qu'en fait, on se rend compte que quand on va dans un rayon d'une grande surface ou dans un rayon d'un magasin qui fait du vrac, on a tendance toujours à prendre les mêmes marques, à ne pas regarder. Et puis, on laisse tomber le riz de Camargue alors qu'il n'a rien de différent par rapport aux autres.
Il y a du complet, du semi-complet, du
raffiné. Il est même meilleur parce que, d'un point de vue de la culture, on est beaucoup plus strict en France qu'en Asie. Et il y a beaucoup moins de pesticides qui sont balancés sur les riz français que sur les riz chinois.
Je me souviens d'un reportage avec un riziculteur en Camargue qui, lui, nettoie ses riziculteurs, enfin, ses champs de riz, avec des canards.
Le riz des canards, ça s'appelle.
Ça s'appelle le riz des canards, exactement.
Donc, vive le riz. Alors, dans votre livre, il y a une belle recette aussi qui est rassembleuse, c'est le congee. Hein, oui. C'est un plat asiatique.
C'est un plat auquel je me suis intéressée en faisant le livre, en fait, parce que j'avais envie de faire des sortes de bouillies qu'on fait notamment en Asie. Donc il y a une recette de congee dans le livre avec le principe, c'est un riz cuit dans un bouillon. Là, en l'occurrence, c'est une recette de congee cuit dans un bouillon de champignons. Donc on a vraiment ces arômes de champignons hyper intéressants. Et à la fin, on a ce riz qui a lâché tout son amidon et qui vient s'agglomérer et constituer cette espèce de bouillie très réconfortante.
Cuisson longue.
Et en fait, j'ai voulu refaire cette recette au perchoir à Ménilmontant lors de notre précédente résidence. Et j'ai trouvé une technique pour faire ce plat au sein d'un service dans un restaurant. Parce qu'en fait, le problème avec une bouillie, quand on la fait cuire pendant très longtemps sur le coin du fourneau, à la fin du service, elle est beaucoup trop cuite. Donc on a fait une espèce de crème de riz en mixant du riz trop cuit qui vient nous aider à faire une liaison avec du riz, donc on mélange du riz et cette crème de riz, et ça nous donne un riz très crémeux, et c'est devenu notre plat phare qu'on n'arrive pas à enlever.
Oui, et ça c'est facile à faire en plus. Hein. Je veux dire, une cuisson longue, même si on a un bouillon moins élaboré que le vôtre, on peut se faire plaisir.
Ouais.
Il y a le petit épeautre aussi, hein, qui revient en force, qu'on cultive en Haute-Provence, qu'on appelait aussi le blé des Gaulois. Moi, j'aime bien le petit épeautre parce qu'il y a ce petit côté rustique, je trouve, d'une céréale ancienne, quoi.
Oui, il y a un côté très noisette, croquant sous la dent. Et on peut, c'est très facile à agrémenter. Tout à l'heure, on donnait l'exemple d'un risotto. Souvent, on fait souvent des risottos de champignons aussi avec le petit épeautre. Mais moi, j'adore les salades de petit épeautre. Il suffit d'avoir, en général, une vinaigrette. Moi, j'aime bien les sauces pour enrober les céréales, pour apporter ce côté gourmand, pour éviter ce côté trop sec.
Oui, bah oui.
Et donc, on peut multiplier les recettes à base de petit épeautre en servant aussi de restes de petit épeautre qu'on aurait cuit pour faire par exemple un risotto et le récupérer le lendemain pour faire une salade.
Trempage ou pas trempage pour le
trempage pour le petit épeautre.
Trempage. Là, on rentre dans la période des légumes feuilles, des légumes verts avec une belle salade de petit épeautre, comme vous dites, avec votre belle sauce vinaigrette. On pourrait mettre des épinards, par exemple.
Des asperges.
Du bleu.
Dieu, les asperges.
Hein, un beau bleu avec les épinards. Voilà.
Moi, j'en mettrais pas parce que j'aime pas trop le fromage.
Alors les asperges, on peut les mettre crues aussi. Hein,
en lamelles.
Et même les blanches, hein, quand elles sont taillées très finement, bien fraîches, les blanches. Philippe Tonnard.
Moi, j'avais une question technique pour Manon. Est-ce qu'on peut cuire nos céréales avant et combien de temps ça se garde avant de les cuisiner pour de vrai ?
Alors,
si je cuis de l'orge, par exemple,
oui.
Je peux le conserver combien de temps dans mon réfrigérateur ?
Moi, je dirais 3 jours, comme on le fait en général dans une cuisine. C'est-à-dire qu'on cuit une dorée et en général, on peut la garder pendant 3 jours. Et je pense que voilà, si elle n'est pas assaisonnée et c'est juste cuit, mais je dirais même un peu plus.
C'est ça.
Donc, c'est aussi l'avantage, c'est qu'on peut s'organiser, cuire à l'avance et minute, notamment quand on veut faire un petit risotto minute à la maison, en liant. Moi, j'adore lier aussi avec des purées de légumes. Typiquement, si on a du petit épeautre, on peut lier avec une purée verte c'est d'épinards ou de champignons ou de carottes.
Oui, parce que le petit épôtre, contrairement au lit, au riz ne se lit pas lui-même.
Exactement. Il n'y a pas justement ce côté gluant. Et il se tient, donc c'est l'avantage.
Et en plus, vous le dites dans votre livre, on peut repasser à la poêle quand c'est cuit à l'avance aussi une céréale pour les griller, par exemple.
Oui, il y a ce côté souvent torréfié de ces arômes de miel qui peuvent ressortir notamment sur le sarrasin décortiqué, qu'on peut utiliser, donc cuire et utiliser et manger comme une poêlée, en gros. On peut le cuire d'avance, le refroidir et ensuite le faire revenir à la poêle avec, je pense, un petit beurre noisette pour apporter de la gourmandise. Et là, il y a des arômes de miel en général qui se dégagent magnifiques.
Et ben, vous l'avez entendu, chers auditeurs d'Europe 1, la cuisine de la céréale, c'est capital. Merci Manon Fleury.
Merci.
Votre très beau livre chez Flammarion, Les recettes d'une chef engagée. Et vous restez avec nous parce que vous allez nous régaler dans un instant avec le grand Jacques Weber qui est notre invité. Et vous allez nous faire un gâteau de crêpes Suzette. Et là encore, vous allez jouer avec les céréales pour les farines utilisées.
Hein ? Oui.